Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Cette composition trépidante que l'on croirait extraite d'une série policière américaine est en fait une œuvre du regretté contrebassiste et chef d'orchestre Charles Mingus. En cette année 2022, cet instrumentiste émérite aurait eu 100 ans. Pour saluer la mémoire de ce personnage haut en couleur, insoumis et essentiel dans l'épopée des musiques noires, nous avons décidé de vous faire entendre un document que nous avions précieusement conservé dans nos archives. Il s'agit de l'interview que nous avait accordée Sue Mingus, son épouse, qui en 2005 était heureuse d'annoncer la création d'un label, Mingus Music, afin de préserver le patrimoine de son ancien mari en enregistrant des relectures de ses œuvres par trois grandes formations, le Mingus Orchestra, le Mingus Big Band et le Mingus Dynasty.
Everybody listen, stop right where you are. You there in the corner, you beside the bar. I feel so all alone, I hope you let me sing my blues for you. About a lover man, so happily it started. Can't see why we parted. This how it began. Boy meets girl on a cloudy afternoon. Woman meets man, so they say. Love at first sight, what a day. And boat rides, strolling through the park, watching fireflies light up the
Voilà un exemple de ce que le Mingus Big Band promeut en revitalisant le patrimoine du chef d'orchestre Charles Mingus depuis sa disparition en janvier 1979. Sue Mingus était enchantée de pouvoir faire redécouvrir cet héritage musical sur les ondes, comme elle nous le confiait dans l'épopée le 26 septembre 2005.
L'épopée des musiques noires.
The interesting thing is that the perception of Charles has changed enormously in the last 25 years since he died. When he died, he was known primarily as a virtuoso bass player, as a band leader, as a colorful character on stage. He was not considered first and foremost a composer, which is what he knew himself to be. He left the largest legacy of composition after Duke Ellington. But when he was alive, people did not play his music the way they played Duke or other composers. And this is why we formed these Mingus Legacy Bands to carry on the music because other people were not playing it and because he left so much music.
Alors il faut préciser que depuis 25 ans, l'image de Charles Mingus a énormément changé. Lorsqu'il est décédé en 1979, l'image que l'on avait de Mingus, c'était un musicien, jazzman, contrebassiste, chef d'orchestre, un homme haut en couleur, mais il n'était pas perçu comme un compositeur. Au fil des années, son image a changé. À l'époque, on reprenait aisément des œuvres de Duke Ellington, qui était vraiment considéré comme le compositeur du XXe siècle. On ne reprenait pas encore les œuvres de Charles Mingus. Et grâce aux trois grandes formations qui rendent hommage depuis 25 ans à Charles Mingus, ses œuvres sont mieux connues et son image a changé, et notamment l'image du compositeur. Charles Mingus, c'était un homme en colère qui a traversé les heures sombres de la ségrégation raciale aux États-Unis. Avec le recul, pensez-vous que son franc-parler son engagement ont servi ou desservi son œuvre?
Well, you know, Charles spoke out all the time from the bandstand about his political views. He spoke out against racism, about intolerance, about the whatever was on his mind at the time. He wrote some political pieces, some very well-known political pieces about a racist governor in Arkansas, Fables of Faubus, and so forth. He was not a political composer as such. He wrote a handful of political pieces. And he had an image at one point of jazz's, he was called jazz's angry man. But, you know, he was many, many things. And this is what I think is changing the perception, because he wrote love's beautiful ballads. He wrote spiritual pieces. He wrote European classical pieces. He was steeped in the blues. And the angry man was what got headlines. If he broke a bass, if he punched somebody else, it got headlines. The quiet man composing at the piano alone, you know, that doesn't get write-ups. So the perception of Charles was really inaccurate. It was really skewed.
Donc l'image de Charles Mingus a évidemment beaucoup changé. Pour vous donner une idée, de son vivant, on retenait de Charles Mingus ses faits et gestes sur scène. Il parlait beaucoup sur scène de la ségrégation, de l'intolérance, du racisme. Et il avait même écrit certaines œuvres très importantes comme Fables of Faubus, qui était à destination d'un gouverneur raciste de l'Arkansas, Orval Faubus. Et c'est vrai que ces œuvres-là, ces prises de position ont été retenues par les médias parce qu'elles étaient visibles. Mais il ne faut pas oublier que Charles Mingus était aussi un homme qui travaillait énormément, qui composait beaucoup, qui écrivait de très belles chansons d'amour, qui composait de grandes œuvres pour la musique classique, à l'image d'un Duke Ellington. Et c'est vrai que malheureusement, on a longtemps regardé l'aspect visible de Charles Mingus qui, sur scène, casse sa contrebasse de rage ou s'emporte comme ça sur scène. On ne retenait pas le compositeur qui a imaginé de très belles œuvres. Pensez-vous que l'œuvre de Mingus a été sous-estimée?
Well, I think Charles has still not been fully acknowledged as the composer that he was. After all, he left, as I say, the second largest legacy of composition in 20th century American music. And he was a very original composer. Anybody who has a really original voice, it takes a while for your ears to grow up to that music. You hear three notes of Mingus and you know who it is. But, you know, it seemed originally like it was very difficult music. It is indeed challenging music. But year after year, we get more and more used to the music and it seems familiar. And now his music is entering the mainstream. It's used in television ads for automobiles. You know, it's used in Hollywood films. And it's not so inaccessible as it seemed when Charles died.
Donc il est vrai que sa musique pendant quelques années a été sous-estimée, mais au fil du temps, ses œuvres ont été mieux connues et elles apparaissent même maintenant dans des publicités pour des automobiles, c'est vous dire, ou même dans des bandes-annonces de films. Donc c'est vous dire que son œuvre est en train d'intégrer le patrimoine musical noir américain et le patrimoine musical mondial. Et c'est vrai qu'il avait une spécificité, une couleur musicale qui était identifiable au bout de 3 secondes. Alors c'est vrai que ce n'était pas forcément la musique la plus facile à entendre, c'est vrai que c'est une musique qui exige une certaine écoute, mais au fil des années, on commence à comprendre cette musique, à l'intégrer et à l'entendre de plus en plus facilement. Duke Ellington était un Afro-Américain, un grand compositeur comme Charles Mingus, qui s'intéressait à la musique classique et s'en inspirait pour ses œuvres, comme Charles Mingus. Pourquoi prend-on plus souvent Ellington comme référence plutôt que Mingus?
Well, Duke Ellington was older. He left a larger legacy of composition. I think just for that reason. You know, it's hard to compare Bach, Beethoven, Mozart. You know, everybody has their own individual imprint and their own kind of music. Charles's music is different from Duke's. It's more open. There's more space in the music for musicians to come in and play themselves. In that sense, it has a moderninity that continues because it moves with the musicians that are playing it. They're both great legacies and different.
Donc ce sont deux compositeurs importants, mais c'est vrai que Duke Ellington est né avant Charles Mingus. Duke Ellington est né en 1899 et Charles Mingus en 1922. Donc de fait, Duke Ellington avait transmis une œuvre plus imposante et qui est mieux connue de celle de Charles Mingus. Mais Charles Mingus a proposé une œuvre qui était peut-être plus ouverte, qui permettait de tenter des expériences. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on peut encore tenter des expériences sur la musique qui est jouée de Charles Mingus parce qu'elle permet la modernité, elle permet de se renouveler perpétuellement, ce qui n'est peut-être pas ou moins le cas pour Duke Ellington. Mais ces deux grands compositeurs ont apporté, l'un comme l'autre, un héritage massif, patrimonial, qui ne peut être négligé. Duke Ellington était peut-être moins acerbe que Mingus, ce qui le rendait plus consensuel.
Well, Charles often shot himself in the foot. I mean, that is true. You know, he alienated people that could have helped him. His persona might have gotten in the way. But now, you know, they have both passed on to another world, and what we have left is their legacy of composition. So this hopefully will not matter anymore, how Charles behaved, you know, the mischief and the the scene making that took place during his lifetime. Because what is left, you know, alas, is not Charles on bass and is not the band leader and the enormous personality, but the composition. That's what we judge ultimately both Duke and Charles by.
Alors c'est vrai que parfois Charles Mingus était tenté de dire des choses et on lui tapait sur le pied en lui disant « vaut mieux ne pas prononcer tel ou tel mot ». Donc c'est vrai qu'il avait une tendance comme ça à vouloir dire les choses et à s'indigner. Mais ce qu'on retient finalement aujourd'hui de Charles Mingus ou de Duke Ellington, ce ne sont pas leurs attitudes respectives par rapport à une situation donnée, c'est ce qu'ils ont laissé. Ce qu'ils ont laissé, ce sont des œuvres importantes, c'est un patrimoine et c'est ça qui est le plus important, c'est essayer de se souvenir qu'au-delà de leur personnalité et de ce qu'ils représentaient dans une certaine époque, ils ont d'abord laissé un patrimoine très important. Mingus avait écrit en 1959, vous en parliez il y a quelques instants, les fables de Phoebus, Fables of Phoebus, une composition à destination du gouverneur raciste d'Arkansas, Orval Phoebus, qui avait interdit l'accès de l'université de Little Rock à tout étudiant noir. C'est l'une des œuvres de Mingus les plus célèbres. Mais j'aimerais que vous me parliez d'une autre création dictée par l'indignation, c'est Lonely Day in Selma, Alabama.
I think Charles was performing a live concert in Minneapolis shortly after this dreadful killing of four children in a church in Selma. It was a horrifying incident that shocked everyone in the United States. And Charles was on stage and he was ad-libbing before playing a piece called Freedom. And he started talking about Selma, Alabama. It was a lonely day in Selma, Alabama. People were, and Charles was a master improviser, and he wrote this very moving introduction, which became known as It Was a Lonely Day in Selma, Alabama, as a beginning to a piece called Freedom, which also had a narration.
Charles Mingus était sur scène à Minneapolis, c'était en 1965, et il avait entendu parler de ces quatre jeunes filles noires qui avaient été brûlées lors de la marche de Selma, Alabama, et il voulait s'indigner sur scène. Et il s'est lancé dans un speech, dans un prêche presque, et il voulait dire combien il était indigné par rapport à cette atrocité. Et donc il a improvisé presque sur scène un titre qui est maintenant gravé sur CD, qui s'appelle « It was a lonely day in Selma, Alabama », qui est en fait l'introduction à un titre plus développé, qui est une narration qui s'appelle « Freedom ». Écoutons cet instant de révolte de Charles Mingus en 1965 à Minneapolis.
« Freedom for your mama, freedom for your daddy, freedom for your brothers and sisters, but no freedom for me.
mule ain't from Moscow. This mule ain't from the South. This mule's had something in it, mostly mouth to mouth. This mule could be called stubborn and lazy, but in a clever sort of way. This mule could be working, waiting and learning and planning for a sacred kind of day. A day when burning sticks and crosses is not a child's play, but a madman in his most incandescent bloom, whose loveless soul is imperfection and his most lustrous gloom. So stand fast, yellow mules, soothing contemplation, thy burning hole, and aching thigh. Your stubbornness is of the living, cruel anxiety is about to die.
Freedom.
It was a lonely day in Selma, Alabama. Charles Mingus à Minneapolis en 1965 appelle à l'égalité raciale et à l'arrêt des violences policières. Sous Mingus, est-ce que Charles Mingus est resté en colère tout au long de sa vie? Ne s'est-il pas assagi progressivement?
I think Charles was everything. You know, he was angry. He was spiritual. You know, he felt every emotion there is to feel, and every one of those emotions went into his music. If you want to know who Charles Mingus was, all you have to do is listen to the music. As I say, he had this reputation in the 60s for being jazz's angry man. He had a lot to be angry about. He was the wrong color in a very white society at a time. He was a sensitive artist who was not recognized, and he was a fighter. And he spoke out, and so he got a reputation.
C'était un homme multiple, Charles Mingus, qui éprouvait des émotions diverses et variées. Il pouvait être en effet en colère, mais il pouvait aussi être quelqu'un de très spirituel, de très profond. Et si vous voulez connaître la musique de Charles Mingus, le mieux c'est encore de l'écouter et vous comprendrez les émotions qui traversent cette musique. Il faut dire que Charles Mingus était en effet reconnu comme l'homme en colère, le jazzman en colère au milieu des années 60, mais il avait des raisons de l'être puisqu'il était noir dans une Amérique très blanche. Il faut dire aussi qu'il a été souvent sous-estimé, que son œuvre n'était pas reconnue et c'était un artiste sensible. Donc il a énormément ressenti de frustration, notamment à cause de l'époque dans laquelle il vivait. Si Mingus était né blanc, serait-il plus acclamé aujourd'hui?
Well, it's interesting. He once said if he were born white, which he said he couldn't imagine being, but he was speaking about the value of opposition. He once wrote a letter of thanks to his enemies for their creative opposition, because he said being black in a white society and having to prove himself may have been a great impulse to compose and to perform. He said if he'd been born white, he might have been the first bassist in the New York Philharmonic and never composed a thing.
Donc en fait, Charles Mingus voyait ça d'une autre façon. Il est clair qu'il ne se serait jamais imaginé blanc et il ne le recherchait absolument pas. Il était noir et il assumait absolument sa couleur. Et d'autre part, il a longtemps réfléchi à ce concept d'opposition entre les blancs et les noirs et il se disait que finalement, ce qui l'a poussé à composer, ce qui a poussé son élan créatif, c'est justement sa couleur, c'est justement son combat pour être reconnu. S'il était né blanc, peut-être qu'aujourd'hui, il serait le premier contrebassiste dans l'orchestre philharmonique de New York, mais il n'aurait pas connu cette destinée de grand compositeur, il n'aurait peut-être pas laissé cet héritage-là. S'il était né blanc, il serait tout simplement un concertiste classique parmi tant d'autres dans un grand orchestre. Est-ce que Mingus s'intéressait au business de la musique?
In the business of music. Well, you know, he started his own record label. He had perhaps one of the first musician-owned record labels in the 50s called Debut Records. However, he also understood that if you want to be a musician and a composer, at a certain point you have to forget about the business side or you will never compose. There are too many problems in the recording and the distributing and everything else, which he did for a while. But I think at a certain point he turned his back on that and he just played music and composed music.
dont Charles Mingus s'est intéressé pendant quelques années à l'industrie du disque en montant son propre label qui s'appelait Début Records. Mais il s'est vite rendu compte qu'à partir du moment où on a un label, il faut s'occuper du marketing, de la musique, de la distribution, de l'enregistrement des disques, de la fabrication des disques. Et en tant que compositeur, il avait mieux à faire que de s'occuper de tout ce qui est, on va dire, purement mécanique et lié aux droits d'auteur. Donc, il préférait s'intéresser à son œuvre, composer, trouver l'inspiration seul plutôt que de s'éparpiller vers des choses un peu plus mercantiles et industrielles. Que penserait-il de votre vaste entreprise de réhabilitation aujourd'hui?
I think he would not be surprised at all. Charles knew he was a composer. He expected his music to live on. I think he would be delighted at these bands that play his music. However, I tell all the musicians he would fire all of them.
Je ne pense pas que Charles Mingus serait étonné du travail que j'accomplis actuellement, puisque dans sa tête, cette musique avait une pérennité, devait continuer à vivre, à exister. Donc, je ne pense pas qu'il eût été étonné de mon travail, et il aurait même été très heureux de voir sa musique jouer. Mais par contre, je pense qu'il aurait viré tous les musiciens du groupe, parce que forcément, ce n'est pas forcément les musiciens qu'il aurait choisi lui. Nous allons nous quitter avec Wednesday Night Prayer Meeting. Quelques mots sur ce titre ?
This was one of Charles's gospel tunes. The other well-known piece is called Better Get Hit in Your Soul. This is a piece that he used to end his sets with every night, Wednesday Night Prayer Meeting, and so do we with the Mingus Big Band. This is how we close out the night.
Donc c'est un titre, un gospel, l'un des gospels que Mingus a enregistré. Il y en a un autre qui s'appelle Better Get It In Your Soul. Ce titre-là, en général, concluait les concerts de Charles Mingus. Et d'ailleurs, nous avons perpétué la tradition puisque chacun des concerts du Mingus Big Band ou du Mingus Orchestra ou du Mingus Dynasty se termine avec Wednesday Night Prayer Meeting. Mingus, merci d'avoir accepté notre invitation. Une dernière question, qu'aimeriez-vous que l'on retienne de Charles Mingus?
Just to listen to the music. If you want to know who Mingus was, listen to the music, it's all there.
Donc une seule chose, écoutez la musique. Si vous voulez savoir qui était Charles Mingus, écoutez sa musique, tout y est. Merci beaucoup, Sue Mingus. Thanks
thank
a lot.
Thank you so much.
When Charlie speaks of Lester, you know someone. The sweetest swinging music man had a porky pig hat on, a bright star in a dark age. When the bandstands had a thousand ways of refusing a black man admission, black musician. In those days they pulled cellars and chitlins. When Lester took him a wife, arm in arm went black and white, and some saw red, and drove them from their hotel bed. Love is never easy, it's short of the hope we have for happiness. Bright and sweet, love is never easy street. Now we are black and white, embracing out in the lunatic New York night. It's very unlikely we'll be driven out of town. Oh, tonight, these crowds are happy and loud. Children are up dancing in the streets. In the sticky middle of the night, summer serenade of taxi horns and fun arcades. Where right or wrong, under neon, every feeling goes on. For you and me, the sidewalk is a history book and a circus. Dangerous clowns balancing dreadful and wonderful perceptions they have been handed day by day, generations on down.
La discographie de Charles Mingus est si imposante qu'il nous est évidemment impossible de tout diffuser, mais il nous paraissait pertinent d'écouter dans la voix de Joni Mitchell la célèbre composition Goodbye Pork Pie Hat que Mingus avait écrite en 1959 en hommage au saxophoniste Lester Young qui venait de disparaître. Cette version de Goodbye Pork Pie Hat par Joni Mitchell est extraite d'un album qu'elle avait sobrement intitulé Mingus à la mort de Charles Mingus en 1960. Elle est entourée sur ce disque de quelques pointures comme Jaco Pastorius, Wayne Shorter ou Herbie Hancock pour ne citer que. Bref, un classique de l'épopée des musiques noires à connaître absolument. C'est ainsi que s'achève cette émission réalisée par Jérémy Boucher à l'occasion du centenaire de Charles Mingus. La semaine prochaine, c'est une autre immense personnalité que nous saluerons sur les ondes, la voix d'or du Mali, Oumou Sangaré, dont le nouvel album Timbuktu paraîtra le 29 avril. Enfin, notez cette dernière recommandation. Le 12 mai prochain, le trompettiste et chef d'orchestre français Laurent Mignard rendra hommage à Duke Ellington, l'un des héros de Charles Mingus, en donnant un concert très attendu avec son Duke Orchestra au Théâtre du Châtelet à Paris. Il interprétera notamment des extraits de ses deux derniers albums, Duke Ladies volume 1 et 2, qui méritent toute notre attention. D'ici là, passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.